Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Un pilote de chasse ligoté à une cible et environné de tirs d'obus par des avions de combat, bizutage terrorisant sur la base aérienne de Solenzara en Corse. Pour le drame de Mérignac, mis en examen ce matin pour homicide du mari violent et récidiviste, et enquête en cours sur les défaillances de la justice et peut-être de la police. Nous y reviendrons. Nordal Lelandais ne veut pas en dire plus. Bombardé de questions ce matin aux assises de Savoie, il campe sur sa version de la mort du caporal noyé, celle d'une bagarre qui a dégénéré. La vaccination s'accélère encore, plus de 600 000 doses administrées hier, et elle s'ouvre à tous les publics. Football lance Lille ce soir, derby historique car Lille joue pour le titre de champion et Lens pour une place en Europa League. Et puis le printemps de Bourges espère se tenir en juin avec Alain Souchon en vedette. Invité d'Europe Midi, Frédéric Becbédé qui publie sa bibliothèque de survie, 50 livres, bien écrits et mal pensants.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un épouvantable et terrifiant bizutage, c'est l'histoire hallucinante révélée ce matin par La Provence d'un pilote de chasse affecté à la base de Solenzara en Corse. En guise de bienvenue, le militaire a passé 20 minutes attaché à un poteau au milieu d'un champ de tir avec des mirages qui effectuaient des tirs réels autour de lui. Racontez-nous Stéphane Frangy.
Eh bien, en fait, les humiliations, les vexations commencent dès son arrivée sur le sol corse avec cette montée en puissance jusqu'au moment où le pilote est ligoté, le visage masqué par un sac noir et jeté sans ménagement à l'arrière d'un pick-up pour un trajet à toute vitesse sur des chemins accidentés. Direction donc le lieu de son supplice où il va passer 20 minutes, en enfer 20 minutes sous des tirs d'obus toujours cagoulés et sanglés à un pylône marqué d'impact et surmonté d'une croix rouge. C'est une cible dans un champ de tir prévu à cet effet pour l'entraînement aérien des pilotes de chasse. La victime ne voit rien, mais entend le va-et-vient des avions au mirage et la secousse des explosions à 1 km environ dans l'angoisse la plus totale. Et il faut croire que ces tortionnaires sont animés d'un certain sentiment d'impunité puisqu'ils filment et photographient toute la scène. Des faits scandaleux dénonce l'avocat de la victime, maître Frédéric Bernat.
Je ne sais pas si on a joué à la roulette russe avec lui, mais en tout cas, on l'a gravement mis en danger et on l'a très sévèrement traumatisé. Quand vous tirez un obus de 30 sur quelqu'un qui est attaché dans le sens de rotation des éclats, un éclat aurait pu lui couper une jambe, un bras, c'est extrêmement dangereux, c'est intolérable. Et puis surtout, c'est extrêmement traumatisant. Ce sont des violences d'une gravité inouïe.
Voilà, des faits qui remontent à mars 2019. Il aura donc fallu 2 ans à ce soldat pour briser la loi du silence. Contacté, le porte-parole de l'armée de l'air condamne ces agissements. Un processus disciplinaire interne a été enclenché il y a plusieurs mois déjà. Dans la chaîne de commandement, des soldats ont été identifiés et très sévèrement punis. On a tapé fort, m'explique-t-on, sans autre précision.
Voilà, sans autre précision, vous faites bien de le dire, Stéphane Frangy, depuis Marseille pour Europe 1, après ces révélations du journal La Provence. Pour le féminicide de Mérignac, le mari violent et récidiviste vient d'être mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Mais 3 jours après le drame, il n'y a pas que le meurtrier qui soit en accusation. 2 inspections sont en cours pour tenter de comprendre pourquoi la plainte pour violence déposée par sa femme le 15 mars contre un homme déjà condamné, libéré avec mise à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il devait rendre des comptes à la justice, pourquoi cette plainte est restée sans suite, sans conséquence, Marion Dubois.
Eh bien, l'enjeu, cela va être de déterminer le degré d'information et donc de responsabilité des différents acteurs de la chaîne judiciaire. Ceux qui étaient en charge du suivi du suspect à sa sortie de prison, le conseiller pénitentiaire et le juge d'application des peines. Ceux qui étaient en charge de l'enquête après la plainte pour violence de son ex-conjointe du 15 mars dernier, les policiers et le parquet de Bordeaux. Avant même les conclusions des 2 rapports, on peut déjà pointer du doigt plusieurs défaillances. Alors que le suspect est recherché par la police, eh bien, sur la même période, il se rend à 2 rendez-vous avec son conseiller pénitentiaire. D'après nos informations, le conseiller était bien au courant de la plainte qui visait l'homme de 44 ans, tout comme le juge d'application des peines. Pourquoi la police, pour qui le suspect était introuvable, n'a pas été avisée en temps et en heure de ces convocations? L'administration pénitentiaire n'avait sans doute pas connaissance du fait que le suspect était recherché. Enfin, autre dysfonctionnement, pourquoi le sursis probatoire du suspect n'a pas été révoqué alors qu'il était en infraction manifeste geste de l'interdiction d'entrer en contact avec sa victime. Il aurait ainsi pu être renvoyé immédiatement en prison.
Marion Dubreuil. À Avignon, le meurtrier du brigadier Éric Masson reste introuvable. Ce matin, Jean Castex lui a rendu hommage lors d'un déplacement au commissariat de Sarcelles. Le Premier ministre a rappelé qu'il était le 7e policier mort en mission en 2020. À Chambéry, encore les mêmes questions. Comment est mort le caporal Arthur Noyer? Et toujours les mêmes réponses de l'accusé Nordal Lelandais, soumis à un long interrogatoire ce matin devant la cour d'assises de Savoie, avec une version, la version qui ne convainc personne, d'une bagarre qui a mal tourné. Jean-Luc Boujon, vous êtes sur place en direct. Lelandais n'en a pas dit beaucoup plus.
Effectivement, un Nordal Lelandais ne bouge pas d'un iota sur sa version des faits, malgré les exhortations poignantes hier de la famille de sa victime à tout dire, à livrer toute la vérité. L'ancien maître chien s'en tient pour l'instant depuis plus de 3 heures maintenant à ses déclarations. Oui, il a bien tué Arthur Noyer, mais non, il n'a pas voulu sa mort. Celle-ci est intervenue par accident alors qu'il répondait au coup du jeune militaire très agressif et qui le soupçonnait de lui avoir volé son téléphone. Un Nordal Lelandais très en retrait depuis ce matin. Il parle d'une voix timide, pèse presque chacun de ses mots, comme s'il avait peur de trop en dire, alors qu'on l'a vu en début de procès, capable d'être très volubile, de donner beaucoup de détails, pas de cela ce matin. Des mots rares, comptés, comme s'il ne voulait pas trop dévier de sa version, parfois contradictoire, comme l'a fait remarquer le président ce matin. Par exemple, Lelandais explique qu'il a paniqué lorsqu'il s'est rendu compte du décès d'Arthur Noyer, qu'il tournait en rond, ne sachant plus quoi faire, et pourtant il admet avoir, quelques minutes plus tard, coupé ses deux téléphones. On prend soin de couper ses deux téléphones quand on panique, demande le président. Quand on panique, est-ce qu'on prend soin de rouler vers un col de montagne isolé pour se débarrasser d'un corps? Moi, je pense que c'est le comportement d'un homme qui veut échapper à ses responsabilités. Cette fois, Nordal Lelandais n'a rien trouvé à dire.
Jean-Luc Boujon, en direct de Chambéry. Merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
À suivre après une pause, le nouveau mode d'emploi de la vaccination pour tous qui commence. Lens contre Lille, enjeu historique, et le printemps de Bourges qui s'apprête à renaître.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Cette fois, les vannes sont grandes ouvertes avec les annonces d'Emmanuel Macron hier. La campagne de vaccination va s'élargir mercredi prochain à tous les adultes qui le souhaitent, c'est-à-dire un mois plus tôt que le calendrier prévu. Anne Le Gall, c'est quasiment open bar.
Voilà, l'exécutif veut désormais accélérer l'immunisation de la population avant l'assouplissement des restrictions sanitaires fin juin. Donc à partir de lundi, les moins de 50 ans pourront se faire vacciner avec 5 jours d'avance sur le calendrier initial. Les injections seront aussi possibles pour les mineurs de plus de 16 ans souffrant de graves comorbidités. Cela concerne 15 000 à 20 000 jeunes. Et à partir de mercredi, tous les adultes pourront tenter de se faire vacciner, mais là, ce sera seulement sur les horaires de rendez-vous qui n'auront pas trouvé preneur. Donc concrètement, à partir de mercredi, 16h et tous les jours suivants, chaque adulte pourra tenter de s'inscrire sur un créneau libre du lendemain en se connectant sur des plateformes comme Vite Ma Dose, Doctolib, Maya, Keldoc ou en appelant un centre de vaccination à proximité. Alors y aura-t-il vraiment de la place comme ça du jour au lendemain dès la semaine prochaine? Dans l'immédiat, pas si sûr, me confiait ce matin un médecin vaccinateur. Dans les plus gros vaccinodromes sans doute, mais dans les centres de proximité plus petits, ce sera plus compliqué car les rendez-vous sont déjà réservés avec plusieurs jours d'avance. Mais dans un contexte de jours fériés qui s'annonce, pas question de ralentir la cadence ni de gâcher la moindre dose, explique-t-on au ministère de la Santé. D'autant que l'on attend plus de 16 millions de doses de vaccins en mai et 21 millions en juin.
Anne Le Gall. Jean-Michel Blanquer interdit l'écriture inclusive dans les écoles et au sein de son ministère. Circulaire officielle publiée ce matin à cause, dit M. Blanquer, de sa complexité qui constitue des obstacles à l'acquisition de la langue comme de la lecture. La politique en Provence-Alpes-Côte d'Azur, retour au point de départ pour la secrétaire d'État Sophie Cluzel qui maintient sa liste et sa candidature, faute d'accord avec le LR Renaud Muselier, lequel déplore cette recandidature, mais le feuilleton est peut-être pas fini, il reste 10 jours avant le dépôt des listes. Attendons. Football, Lille contre Lens ce soir en Ligue 1, affiche classique, derby bien connu, ce qu'il est moins, c'est l'enjeu du match, quasiment inédit. Lille joue en effet un titre de champion de France et Lens une place en Europa League. Lionel Gougelot, on imagine l'excitation des supporters des deux camps.
Oui, effectivement, et devant l'enjeu capital de ce match, les supporters lensois sont allés encourager leurs joueurs à l'entraînement hier et ce matin, eh bien, ce sont les Lillois qui sont venus donner de la voix au départ des joueurs. Et de chaque côté, il faut le dire, une grande frustration de ne pas pouvoir rivaliser dans les tribunes. Alex, supporter des Dogs.
C'est surtout de voir cette saison qu'on fait, qui est magnifique, et puis surtout, on attendait que ça, de pouvoir retourner à Lens aussi, de revivre un derby là-bas. C'est comme ça, c'est le jeu, mais l'année prochaine, on sera présent.
Ce sera donc devant la télé, mais la passion intacte pour Dylan, fan des 100 et or.
Que ce soit pour eux comme pour nous, c'est sûrement un des matchs les plus importants, il n'y a pas de doute. Il y a la ferveur qui est là, tout est là, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire un vrai beau match, un vrai derby où on peut vraiment rivaliser dans le jeu.
En fait, le truc en plus, vous savez, pour les Lensois, ce serait de barrer la route du titre aux Lillois.
Ça, c'est la mentalité que tous les supporters de Lens ont, justement, c'est il faut priver Lille du titre. Notre scénario, ce serait Lens européen et qu'on prive Lille du titre. Là, ce serait le scénario idéal.
Et même Gaël Kakuta, l'attaquant lensois, assure qu'il préférerait voir le Paris Saint-Germain champion plutôt que Lille. Eh bien, figurez-vous que ça laisse de marbre Franck, supporter lillois de Tourcoing.
Qu'il dit qu'il veut gagner, certes, c'est logique, parce qu'il joue pour Lens. Maintenant, dit qu'il préfère voir le PSG gagner, c'est bien. Donc, on va là-bas pour gagner et pour mettre vraiment notre empreinte sur la région, pour dire que le LOSC, c'est le grand club du Nord.
Voilà, on saura un peu avant 23h ce soir si ce match sera l'un des tournants de la saison de Ligue 1.
Merci Lionel Gougelot. Plus de 200 policiers sont déployés autour du stade Bollaert pour empêcher la venue des supporters lillois, déclarés indésirables par arrêté préfectoral. Les supporters lensois, eux, ont de leur côté interdiction de se déplacer sur les arrondissements d'Arras et de Béthune. À Bourges, le printemps a prévu d'éclore à nouveau dans un mois et demi, du 22 au 27 juin, avec en vedette Alain Souchon ou Feu Chatterton, mais avec seulement 20 fois moins de festivaliers que d'ordinaire à Angèle Châtelier.
Oui, 10 000 au lieu de 80 000, car à chaque concert, il n'y aura pas plus de 1 000 personnes. Une jauge à 65% maximum. Et puis le public sera assis. Alors oui, on sera loin de la fougue des belles éditions du Printemps de Bourges, mais Boris Vedel, directeur du festival, s'en contente et veut voir le verre à moitié plein.
Ça fait des années qu'on a vu aucun spectacle et qu'on a vu aucun artiste. Au Printemps de Bourges, on a naturellement des grands formats, très grands formats, qui sont debout, mais aussi énormément de spectacles assis. Donc je peux comprendre que certaines personnes soient un peu tristes. Alors écoutez, soit on décide d'être triste, soit on décide d'être heureux. Moi personnellement, quand on permet un petit peu de voir le soleil, j'oublie les nuages.
Et sur scène, il y aura 70 artistes. Pomme, Catherine Ringer, Jean-Louis Aubert, Feu Chatterton ou Alain Souchon, vous le disiez Patrick, pour les plus connus.
J'aime le soleil.
Le Printemps de Bourges, c'est aussi des créations originales comme celle de Jeanne Hadet qui rendra hommage à Prince. La billetterie pour le festival ouvre ce mardi à 17h.
Merci beaucoup Angèle Châtelier. Le temps, Nissa Adadi, plus chouette dans le Nord.
Et oui, plus ensoleillé, Patrick. Une fois n'est pas coutume, c'est sur la moitié Nord cet après-midi. Pour toutes les régions situées au nord de la Loire que le soleil sera le plus présent, le plus généreux. Ça fait du bien, profitez-en. Au sud de la Loire, de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes, hein, donc entre Bordeaux et Grenoble, nous aurons un ciel bien plus gris. Alors le temps redevient sec. Les pluies de ce matin se calment, mais le ciel sera bien plus gris. Au bord de la Méditerranée, quelques beaux rayons de soleil. Mais attention, la tramontane souffle sur le Roussillon. Et puis le vent d'ouest souffle aussi sur la Côte d'Azur et la Corse avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Les températures, alors là c'est l'inverse. Elles sont plus fraîches au nord qu'au sud. On aura seulement 11 degrés à Boulogne-sur-Mer cet après-midi, 12 à Dunkerque, 15 à Caen et Lille, 16 degrés pour Paris, 17 à Bordeaux. Dans le sud c'est plus sympa avec 18 degrés à Lyon, 20 à Pau, 23 à Marseille, 24 à Nîmes. Et ça s'envole à Nice avec 26 degrés. Je vous parlais d'un week-end chaud, il le sera. On va dépasser la barre des 25 degrés. Ça ne va pas durer.
Bah non.
Non, c'est juste, c'est éphémère. C'est une petite parenthèse de bonheur voilà, comme ça ce week-end.
Pour la Pentecôte, plouf.
Et bah ouais, mais c'est les Saintes Glaces aussi, Patrick, ouais. Entre le 11 et le 13 mai. Donc on respecte les traditions.
Merci. Non, c'est pas la Pentecôte, c'est l'Ascension.
L'Ascension. Voilà.
L'Ascension,
oui.
La semaine prochaine. Merci, ouais. Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Avec nous dans un instant, Frédéric Becbédé, qui aime les livres bien écrits et mal pensants.